Bonjour chers auditeurs, nous sommes l'école Saint-Ferdinand de Chartres. Nous avons été touchés par le fait que le prix Nobel de la paix ait été attribué à l'adolescente pakistanaise Malala Yousafzai et à l'indien Kailash Satyarthi qui consacrent leur vie à défendre les droits des enfants. Mais au fait, qui sont-ils? Antoine et Brian vont nous l'expliquer.
Adolescente au courage exceptionnel, Malala, 17 ans, militante du droit à l'éducation, a reçu le prix Nobel de la paix. La jeune pakistanaise devient ainsi la plus jeune des lauréats de l'histoire du prix. Elle s'est engagée à lutter jusqu'au jour où elle verrait tous les enfants à l'école. Reçue par de grandes personnalités du monde, dont Barack Obama, Malala doit sa renommée à un engagement sans relâche en faveur de la scolarisation des enfants au Pakistan et à travers le monde. C'est une icône. Malala a frôlé la mort pour ses idées. Des extrémistes, les talibans ont manqué de l'assassiner le 9 octobre 2012 dans un bus scolaire. Déjà connue pour militer en faveur du droit à l'éducation des filles, elle avait tenu un blog. Malala devenait soudain un martyr de l'extrémisme. Elle a survécu miraculeusement à la balle qu'elle avait reçue en plein visage. Le 12 juillet 2013, à New York, devant l'Assemblée des jeunes de l'ONU, elle a déclaré « Les talibans pensaient qu'une balle pourrait nous réduire au silence, mais ils ont échoué. » Avant de conclure, « Je n'ai même pas de haine pour le taliban qui m'a tiré dessus. » Elle a eu droit à une ovation debout. Dans l'assistance, beaucoup pleuraient. « Prenons nos cahiers et nos crayons », avait-elle enchaîné. « Ce sont nos armes les plus puissantes. » Lors de la remise des prix, elle a déclaré « Je continuerai ce combat jusqu'à ce que je vois tous les enfants à l'école. »
Inconnu du grand public en Occident, l'Indien Kailash Satyarthi a reçu le prix Nobel de la paix vendredi 10 octobre avec l'adolescente pakistanaise Malala Yousafzai, une figure discrète du combat pour les droits des enfants. C'est donc logiquement aux millions d'enfants qui souffrent que l'ingénieur électricien de 60 ans a adressé ses premiers mots en apprenant que son engagement était récompensé. Il a déclaré « Je refuse d'accepter que le monde soit trop pauvre pour scolariser les enfants quand une seule semaine de dépenses militaires mondiales suffirait à mettre tous nos enfants dans les classes. Je refuse d'accepter que les chaînes de l'esclavage soient plus fortes que la quête de liberté. C'est un ami des enfants. Il a fondé en 1980 le mouvement pour sauver l'enfance qui a sauvé de la traite et de l'exploitation quelques 80 000 enfants d'usines et ateliers au cours des 30 dernières années.
Quelles sont ses actions?
Il raconte que le déclic a eu lieu chez lui dès l'âge de 6 ans, lorsqu'il a vu un garçon de son âge sur les marches de son école en train de brosser les chaussures avec son père. Devenu avocat des droits des enfants, il a commencé son combat en organisant des actions contre des usines et des ateliers afin de libérer des familles entières contraintes de travailler. Monsieur Satyarthi préside également la Marche mondiale contre le travail des enfants, un mouvement créé dans les années 1990. Aujourd'hui constitué de près de 2000 associations et syndicats dans 140 pays. En 2007, il avait ainsi organisé une marche de plusieurs milliers de kilomètres contre le trafic d'enfants le long de la frontière de l'Inde avec les voisins d'Asie du Sud. Kailash Satyarthi est ainsi connu pour avoir mené une campagne après des consommateurs occidentaux afin de leur expliquer que l'achat de tapis et d'autres marchandises fabriquées par des enfants n'était pas bon.
Bien sûr, nous on a du bol d'aller à l'école, même si certains matins on râle un peu. Nous avons alors mené notre petite enquête pour mieux connaître la situation des enfants dans le monde, particulièrement au niveau de leur scolarisation. Selon l'ONU, près de 58 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont pas scolarisés et au moins 150 millions d'enfants sont forcés à travailler à travers le monde. Expliquez-nous cela, Inès et Pierre.
Travailler dans certains cas peut être positif dans le développement de l'enfant. Cela peut lui apporter le sens des responsabilités et lui permettre d'acquérir des compétences qui lui seront utiles pour la suite de sa vie. Par exemple, au Royaume-Uni, la tradition du job est bien ancrée. À partir de 16 ans, environ 12 heures par semaine, ces jobs apportent aux adolescents un peu d'argent de poche. Ils ne servent pas à faire vivre l'enfant et sa famille. C'est ainsi que les jeunes obtiennent facilement du travail de quelques heures par semaine, comme caissier au supermarché ou chez les marchands de journaux du quartier. Ils travaillent surtout le dimanche et en dehors des heures scolaires, dans les traditionnelles tournées de distribution de lait et de journaux tôt le matin, comme babysitter ou vendeur chez les commerçants le soir.
Mais aujourd'hui, près de 250 millions d'enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le monde, dont plus de 150 millions dans des conditions très mauvaises pour leur santé, leur éducation, leur épanouissement et donc pour leur vie.
Dans quelles circonstances peuvent-ils se trouver ?
Ils travaillent à plein temps depuis leur très jeune âge.
Leur lieu de travail est dangereux, comme dans les mines en Afrique ou les fabriques de briques au Pakistan, par exemple.
Leurs journées de travail sont très longues.
Ils subissent de violences verbales, ils sont battus.
Ils ne choisissent pas de travailler, ils sont obligés.
Leur salaire est très bas, souvent même, ils ne sont pas payés.
Ils vivent et travaillent dans les rues, dans des conditions difficiles.
Ils resteront pauvres, puisqu'ils ne vont pas à l'école.
Pourquoi les enfants travaillent-ils ?
La plupart du temps, les enfants travaillent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à la maison et que les familles ont envie. Les filles sont particulièrement demandées pour les tâches ménagères.
Si certains choisissent d'employer et d'exploiter les enfants, c'est parce qu'ils sont, sans défense, moins chers que les adultes et moins exigeants sur leur salaire. Ou les conditions de travail, certains employeurs disent que les enfants se prêtent bien à certains types de travail, du fait de leur petite taille et de leurs doigts agiles.
Beaucoup de ces enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. L'école peut coûter très cher et les parents pensent quelquefois que ce que leur enfant y apprendrait ne servirait pas dans leur vie, au quotidien et pour leur avenir. Bien souvent, l'école est trop loin ou il n'y en a pas. Ou alors, la classe est faite en une langue qui n'est pas la langue maternelle de l'enfant, ou parfois les deux à la fois.
Le travail des enfants est la conséquence de la pauvreté, mais il y a aussi pour effet de les y maintenir. En effet, les enfants qui travaillent n'ont généralement pas la possibilité d'aller à l'école. Une fois adultes, ils n'auront pas de qualification et seront donc condamnés à des emplois mal payés. À leur tour, ils feront travailler leurs enfants pour les aider à subvenir aux besoins de la famille.
Où les enfants travaillent-ils ?
Dans les champs, pour environ 70% d'enfants.
Comme employés de maison, surtout les filles. Dans des usines, par exemple dans la fabrication d'allumettes, de feux d'artifice, d'articles ou de verrerie.
Dans la rue, comme mendiant.
À l'extérieur, dans les fours à briques, les mines, la mine, le bâtiment.
Dans la restauration, bar, restaurant.
Maintenant, on pourrait écouter un peu de musique. Chanson C'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. Vous écoutez Radio Grand Ciel, nous sommes les enfants de l'école Saint-Ferdinand et nous vous parlons de la condition des enfants dans le monde. Mais il y a aussi tous ceux qui ne peuvent plus aller à l'école, Marie, à cause de la guerre ou de catastrophes naturelles. Mais il y a aussi tous ceux qui ne peuvent plus aller à l'école à cause des catastrophes naturelles.
Chaque année, des millions de personnes fuient leur foyer en raison de conflits armés, de situations de violence généralisées, de persécutions ou de catastrophes naturelles. Les effets de la guerre sur les enfants sont terribles. Un enfant a besoin d'une famille et de se sentir en sécurité pour bien grandir et s'épanouir. Il y a actuellement autant de personnes déracinées que la population totale de pays tels que la Colombie, l'Espagne, l'Afrique du Sud ou la Corée du Sud, c'est-à-dire environ 50 millions. Près de la moitié sont des enfants. Ce sont eux les plus vulnérables face aux dangers qu'entraînent ces déplacements. Un enfant en exil est un enfant en danger. Le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation sont les plus importants. Les enfants ont besoin d'un abri, de nourriture, d'eau potable, de soins médicaux et doivent aussi pouvoir aller à l'école. Après avoir tout perdu, l'éducation représente pour eux la chance d'avoir une vie meilleure à leur retour d'exil. Tous les enfants ont droit à cela. N'oublions pas non plus les milliers de garçons et de filles qui sont recrutés dans des forces armées pour servir de combattants, de cuisiniers, de porteurs ou encore de messagers. On les appelle enfants soldats. Qu'ils soient témoins de conflits ou forcés d'y prendre part, ces enfants et adolescents sont avant tout des victimes. Eux aussi sont privés de leurs droits et de leur enfance. Ils subissent les lourdes conséquences de cet enrôlement quand ils ne sont pas tués.
Et nous, que faisons-nous pour apporter un peu d'aide à tous ces enfants-là? Nous avons donc cherché toutes les actions de pastorale auxquelles notre école a participé depuis quelque temps. Je te laisse la parole, Mathéo.
Dans notre école, dans le cadre des activités pastorales, des représentants d'associations, souvent issus du département, viennent témoigner et nous informer sur la situation et les besoins des enfants en différents points de la planète. C'est ainsi que nous avons organisé des bols de riz au moment du carême pour accueil et partage. Une association de Châteaudun qui intervient auprès des enfants en Haïti. Nous avons aidé une école qui avait été ravagée par le tremblement de terre à reconstruire une partie des murs d'une classe. Les enfants de l'école ont pu recevoir aussi des fournitures scolaires, cahiers, trousses. Autre année, l'argent récolte a permis à la construction et l'installation de 6 jeux de plein air pour des petits-enfants dans le département de Nippes à l'asile. L'année dernière, nous avons aidé l'association du père Jean Bello à Barapirelli, au Mali. Les enfants scolarisés là-bas avaient besoin de fournitures scolaires. Nous avons aussi participé à l'achat de médicaments pour des enfants malades. Jeudi dernier, nous avons mangé un bol de pâtes pour répondre à l'appel lancé par l'enseignement catholique de France qui a décidé de soutenir l'action de l'œuvre d'Orion et d'aide à l'Église. En détresse pour la reconstruction de l'école à Erbil au Kurdistan irakien. Les enfants de 12 000 familles chrétiennes qui se sont réfugiées là pourront être de nouveau scolarisés. À travers toutes ces rencontres et avec les différentes associations, nous ouvrons au monde et nous comprenons mieux ses besoins et l'importance de ces actions de partage et de scolarité qui nous rendent heureux et apportent aussi tellement à ceux qui reçoivent. Comme le disait Sœur Emmanuelle, souris au monde et le monde te sourira.
Au revoir et à bientôt.